Bonjour à vous qui nous rejoignez. Soyez les bienvenus à bord de ce nouvel épisode de Vous permettez que je te tutoie, un podcast proposé par la mission Écriture contemporaine de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du Printemps des poètes 2023 pour donner la parole à celles et ceux qui rendent la culture essentielle. Cette année, le thème du Printemps des poètes est « Frontières ». Et il est assez amusant que notre invité du jour y participe, lui qui a, depuis très longtemps, aboli les frontières entre le théâtre, la musique et la poésie. Des arts qu'il pratique sérieusement, oui, mais sans jamais trop se prendre au sérieux non plus. Et oui, c'est possible. Je suis heureux d'accueillir Jacques Rebautier. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer cette émission par la petite question rituelle. Jacques, vous permettez que je te tutoie ?
Mais il n'y a pas de problème. Tutoyons-nous avec allégresse.
Eh bien, soyons élégants de ce pas. Et merci pour d'accepter ce tutoiement et d'accepter cette interview, car tu es un garçon très occupé, notamment dans le cadre du Printemps des Poètes 2023, qui est sur le point de débuter à l'heure où je vous parle. Tu présentes le 21 mars à Saint-Quentin-en-Yvelines une lecture à deux voix intitulée « Des feuilles et des feuilles ». J'en reparlerai en fin d'émission. Alors j'aimerais savoir, on va commencer par une double question, en quoi consiste cette lecture et pourquoi ce titre ?
Ah, des feuilles. En fait, j'adore les mots qui ont plein de sens et que les personnes qui écoutent puissent entendre avec ouverture, et donc des feuilles, ben voilà. Quand on est écrivain, ben on utilise des feuilles, mais en fait, il y a un jour où j'ai réalisé que les feuilles, ben ça venait des arbres aussi, et que c'était la même chose. Donc je me suis imaginé un arbre avec plein de papiers comme ça, et avec plein de poèmes écrits sur l'arbre, sur des feuilles, peut-être des poèmes écrits par des oiseaux, ou par des limaces, je ne sais pas. Voilà. Donc feuilles, j'aime beaucoup ce mot. Feuilles, feuillets, c'est un bon mot. J'aime les mots.
Oui, alors ça, j'ai cru comprendre, effectivement, car tu as quelques livres à ton actif, entre autres, parce que tu es aussi un homme de théâtre et tu es dramaturge. Bref, on en parlera un petit peu par la suite. Dans ce spectacle, enfin dans cette lecture, tu proposes des extraits de tes livres. Alors, il y en a quatre, si j'ai bien compté. Le chant très obscur de la langue, paru aux éditions Virgile. 22 placards, paru aux éditions Ancrage & Co., ainsi que Litanique et Le dos de la langue, qui sont tous deux parus aux éditions Gallimard dans la très belle collection L'Arbalète, que je conseille vivement à nos auditeurs et auditrices. Tu assures la lecture en duo avec Frédéric Bruyas, qui est une lectrice publique que nous avons reçue dans cette émission, d'ailleurs, à l'occasion d'un précédent Printemps des Poètes. Est-ce que c'est la première fois...
Excellente lectrice.
Oui, alors j'allais dire lectrice publique de haut vol même, soyez voilà. Fous. Alors, est-ce la première fois que vous faites une lecture ensemble ?
Ah non, 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 pas du tout. En fait, avec Frédéric, on s'est connus il y a très longtemps, et elle avait entendu faire une lecture que je faisais au Théâtre du Rond-Point, une petite lecture enregistrée, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un CD qui s'appelle « Sur les mains, sous les pieds, plus si affinité ». Voilà, elle avait entendu ça, elle m'avait contacté, et elle avait fait un travail de recherche, elle l'avait centré là-dessus, à l'université, sur mon boulot à l'époque, quoi, voilà. Ça s'appelait d'ailleurs ça y est, j'ai oublié. C'était l'écarté du langage, voilà. Et donc, ensuite, comme j'ai mis un gros pied dans le théâtre, je lui ai demandé si elle voulait venir faire assistante à la mise en scène, et elle a eu envie, et donc elle a assisté beaucoup de mes spectacles, en fait, voilà, au Théâtre de l'Athénée, puis des spectacles aussi comme Zoo Musique, où il y avait des musiciens, 20 musiciens qui étaient chacun enfermés dans une cage et puis qui à certains moments se réunissaient pour jouer une pièce, dont d'ailleurs la pièce symphonique était un petit... C'était sur le texte dont vous allez passer un extrait tout à l'heure, je crois. Les 12 essais d'insolitude, une scène de ménage. Voilà. Et donc, elle a suivi comme ça mon travail. C'est une de celles qui connaît le mieux mon boulot.
Oui, c'est une connaissance de longue date. Effectivement, Frédéric m'en parlait dans le podcast que j'évoquais. Et donc, ce spectacle, en fait, vous l'avez conçu en piochant des textes dans tes quatre livres dont on parlait tout à l'heure. Ça s'est fait très simplement, ou alors c'est un travail très très précis, ou alors c'est juste des envies. Comment ça s'est passé pour sélectionner les textes?
Pour choisir, voilà, des feuilles et des feuilles. Alors, on a mis nos préférences chacun de notre côté, on a confronté, on a mélangé les feuilles comme on mélange des cartes, on a fait un ordre ensuite, voilà, tout ça est déjà calé. Et en fait, on va aussi taper dans un cinquième bouquin qui s'appelle Description de l'homme. Et c'est une espèce de fausse encyclopédie écrite par un lapin au XIIe siècle ou un libellule du XXIIIe siècle, si l'homme existe encore, mais c'est pas sûr. Hein.
Bien, mais écoute,
voilà. Et donc, voilà. Donc, on a commencé à lire ensemble. On fait des choses seules ou à deux, des choses un peu musicales parfois aussi. Et voilà, vous allez voir, on va s'amuser. On part sur le principe de choses qu'on aime, avec l'idée que bah, si on aime, on a envie de les transmettre et les gens risquent, c'est un gros risque, hein, mais ils risquent d'aimer aussi, on ne sait jamais.
Oui, un coup de chance, on ne sait jamais. Ouais. En tout cas, je serais assez curieux d'entendre des textes d'un lapin du IIe siècle. Je pense que ça doit être effectivement assez étonnant.
Non, XIIe siècle.
XIIe, pardon. Ah oui, effectivement,
ah, oui,
ça change
ah, bah,
tout.
Oui.
Ah oui, pardon.
Ah, oui.
C'est exact. Alors, donc, tu viens de parler des 12 essais d'insolitude. Donc, c'est un extrait du dos de
comme
la langue.
Comme le lapin, 12.
Voilà.
Comme le lapin, 12, voilà.
Et
oui.
Donc,
pardon.
Non, je t'en prie, Jacques. Et donc, ces 12 essais d'insolitude qui sont dans le dos de la langue, tu les as déjà lus sur scène. Alors, tu le feras avec Frédéric Brouillaz, donc au mois de mars 2023. Mais tu les as lus avec Élise Caron, une comédienne que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et on va écouter tout de suite un petit extrait de ces 12 essais d'insolitude lus avec Élise Caron. Maintenant.
Toujours, je te le dis. Je te le dis toujours, mais t'écoutes jamais rien. Je te dis toujours la même chose, mais t'écoutes jamais. T'entends? T'entends ce que je te dis? Je te dis rien. Je te dis trop rien. Je te dis plus trop rien, hein? C'est ça? 2. Tu veux que je te dise, on fait comme ça. Tu veux? Tu veux que je te dise quelque chose? Rien. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose? Rien. C'est toujours la même chose, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, il y a toujours que moi qui m'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement comme si je te disais rien. Comme si je te disais jamais rien. Si je t'avais rien dit, je t'avais dit rien. Toi, il faut toujours tout te dire. Avec toi, il faut toujours tout te dire. Tu vois rien. Tu dis jamais rien. Avec toi, il faudrait toujours te mettre tous les points sur tous les i. Tu te souviens, hier? 4. Oui, mais non. Toi, on tout le temps toujours la même chose. Toi, on toujours tout le temps la même chose. Toujours les mêmes points sur le même i. Écoute, c'est clair que toujours la même chose parce que tu réponds jamais. C'est clair, t'es un cas. T'es incapable de donner une réponse. T'es incapable de donner. T'es incapable de donner une réponse claire. T'es incapable. Il n'y a pas de mélange comme ça. J'ai mes preuves. 5. Tant que c'est moi qui parle, on comprend tout ce qu'on dit. Mais dès que c'est toi, on comprend rien. C'est toi, il n'y a plus personne, t'entends? Il n'y a plus personne. Avec toi, on n'obtient rien. De toute façon, tu ne réponds jamais à rien. Qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ah, ça va, c'est moi qui viens de te poser une question. Tu ne vas pas répondre par une autre question. 7. Rien ne t'atteint, toi. Vraiment, rien ne t'atteint. Rien ne t'atteint, vraiment. 8. Maintenant, pousse-toi, je me tire, t'entends? Tu te pousses, je me tire, moi. Moi, je te fais la même réponse que tu m'as déjà faite. Si ça te plaît pas, tu te tires. C'est toi qui choisis. 9. Mais qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Justement, rien, juste ciel. T'as rien fait, c'est ça, c'est juste ça. C'est justement ça, tu n'as rien fait. Tu ne m'as rien fait de ce que tu voulais, que je voulais, que tu me fasses. C'est-à-dire tout, c'est tout. Oui, bon, alors ça, c'est un argument que je retiens. 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va. Allez, allez. Allons, allons. Que me chantez-vous là? 11. Et maintenant, je ressens une douleur, une grande douleur, là. Une douleur très aiguë.
C'est pas grave!
12. Et qu'est-ce qui t'a pris de me prendre devant tout le monde? De me prendre devant tout le monde? Tu fais ça devant n'importe qui. Tout le monde est là. Le monde entier est arrivé. On ne retrouve plus rien.
12 essais en insolitude, lus par Jacques Rebottier et Élise Caron. Donc, c'est un extrait du Dos de la langue, comme je le disais tout à l'heure, et on entend bien dans cet extrait la tonalité de chaque syllabe, hein, grave, aiguë, ce qui à l'oral est tout à fait normal, hein, me direz-vous. Ce qui est plus étonnant, c'est que cette tonalité est retranscrite dans les pages du livre, c'est-à-dire que chaque syllabe, selon qu'elle est grave ou aiguë, est écrite plus basse ou plus haut que la précédente. En fait, ça ressemble un petit peu à des notes sur une partition musicale. Est-ce que c'était le but recherché ?
Ben bien sûr. C'est en édition, on appelle ça du parangonnage. Parangonnage. Voilà, le fait de mettre à des hauteurs différentes, comme ça, les syllabes. Moi, c'est du boulot. Hein, c'est du boulot d'éditeurs et de typographes, surtout. Et donc, c'est effectivement pour... Il y a aussi indiqué les endroits où on respire. Quelquefois, il y a indiqué aussi des accents. Des accents sur certaines syllabes, voilà, comme syllabes, et c'est indiqué en caractère gras, par exemple, de façon que, comme le texte est dit assez vite et qu'on a exactement les endroits où on doit respirer, ça se cale assez facilement si on fait attention aux hauteurs, et donc ça se cale relativement facilement. Quand même. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ce texte, et moi j'ai fait aussi, alors comme je suis compositeur, j'ai fait aussi une version avec un orchestre de 20 musiciens, et une autre avec orchestre symphonique. Et donc c'est pareil, là c'est une chanteuse et un comédien ou deux comédiennes qui le font avec un orchestre symphonique. Voilà.
Alors, d'une certaine manière, si je comprends bien, les mots, les syllabes sont de la musique et la voix c'est un peu l'instrument qui permet d'interpréter la partition. Ouais, à l'inverse, ouais. Dirais-tu que la musique est un langage ?
Oui, mais un langage dépourvu de signification, en quelque sorte. Hein, un langage avec du sens, mais pas de la signification. Voilà, c'est difficile de dire que ce que veut dire exactement la musique, c'est à tel endroit, sauf si on met de la musique à programme, comme dans les quatre saisons de Vivaldi, ou bien la symphonie fantastique de Berlioz, mais dans ce cas-là, c'est le sens, enfin la signification vient de l'extérieur, en fait, hein, elle est plaquée sur la musique. Mais la musique en elle-même ne signifie rien d'autre qu'elle-même. Elle s'auto-signifie. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Elle dégage du sens, mais pas de signification. C'est un autre sens, mais où il y a beaucoup de choses comme ça qui dégagent du sens sans avoir des significations très précises qu'on peut verbaliser avec netteté, hein, quand on circule dans la rue, qu'on s'éveille dans son lit, ou voilà, il y a des sensations qui surgissent en vous, quelques mots, quelques pensées, quelques sentiments, des sensations, enfin, voilà, plein de choses en fait qui s'entremêlent. Il y a différents niveaux de perception quoi qui fait qu'on est vivant et tout ne passe pas par le langage articulé.
Alors, heureusement, peut-être. Ouais. Visuellement, sur le papier, cette partition donne naissance à des lignes courbes. Et on retrouve ces courbes dans d'autres textes du livre, hein, parce que c'est un procédé que tu utilises assez souvent au cours de ces 200 pages de poèmes.
C'est-à-dire, si je peux dire un truc là-dessus, c'est que, en fait, c'est destiné en fait, à des gens qui ne savent pas lire la musique. Donc, je me suis dit, voilà, c'est des gens des lecteurs qui ont envie de le porter oralement. Et pas seulement dans une lecture intérieure, s'ils ont envie de le porter oralement à un ou à deux ou à trois, voilà, et ils peuvent déchiffrer cette partition. C'est fait pour eux, pour des gens qui ne connaissent pas la technique musicale. Dans d'autres livres, j'ai aussi des partitions beaucoup plus précises, uniquement de paroles également, par exemple en litanique, à la fin, c'est un texte qu'on fera aussi avec Frédéric Boyas, il y a la litanie de la vie, j'ai rien compris. Et là, c'est noté complètement musicalement. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lire la musique ne pourra pas l'interpréter, ça, par contre. Donc je destine quelquefois des textes musicalisés à des musiciens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la parole. Là, ils sont dans un bain un peu inconnu sur la parole, mais ils peuvent déchiffrer parfaitement tout, ce qui est musical. Et d'autre part, à des comédiens ou à des gens qui ne savent pas lire la musique et qui ont envie simplement de dire ça. Et eux, ils peuvent... Les comédiens interprétaient beaucoup plus facilement le sens du texte, mais ils se collent à une partition qui est faite un peu pour eux, ils essaient de s'adapter à ça. Voilà. Vous voyez, c'est un double travail en fait.
Alors, donc on parlait de.
Je t'ai coupé dans ta question. Ouais, je
Je te pardonne totalement, Jacques,
t'ai
mais je vais
coupé.
la reposer, tu vas pas t'en tirer comme ça.
Ouais.
Donc visuellement, sur le papier, la partition de mots donne naissance à des lignes courbes. Est-ce pour cette raison que le livre Le dos de la langue est sous-titré Poésie courbe?
Entre autres. Non, pas seul. Non, j'avais pas pensé à ça, là, bien.
Ah bah
Non,
écoute, j'ai bien fait de
poésie. Ah ben oui,
venir.
merci, hein. Merci beaucoup. Non, c'est parce que je trouve que la poésie circule de façon comme on se promène, en fait. On se promène pas tout droit, on va un peu à droite, à gauche, là où le vent vous pousse, où nos pensées vous mènent, ou bien les oiseaux, un oiseau qu'on voit à gauche, ou bien voilà, on circule dans la vie et jamais en ligne droite, sauf quand on a un objectif bien précis et qu'on s'y tient, mais moi j'y arrive difficilement. Donc souvent, voilà, la pensée divague, comme on dit, elle fait des vagues, elle sort du chemin droit, elle va de côté.
Alors, je le disais, tu es poète, compositeur, dramaturge, metteur en scène, ça fait beaucoup de casquettes pour une seule tête, dirais-je. Et ce qui est amusant, c'est que tu croises les arts, c'est-à-dire que les frontières entre les arts sont poreuses à ton sens. Il y a toujours, on l'a vu, de la musique dans ta poésie. Je présume qu'il y a de la poésie dans ton théâtre. Enfin, bon, autant dire que
Oui, ça oui.
voilà, tu as un petit peu de mal à cloisonner. Mais apparemment, ça n'a pas toujours coulé de source. J'ai retrouvé une interview que tu as donnée au journal Libération en 1997. J'ai un petit peu fouiné sur Internet.
D'accord.
Et oui.
D'accord.
Et dans cette interview, tu disais, je cite, Quand j'écrivais des textes, j'avais envie de musique. Quand je composais de la musique, j'avais envie de mots, mais je m'interdisais de le faire. Je mettais cela sur le compte de ma dispersion naturelle que je voyais comme un défaut. Alors, à quel moment as-tu enfin osé libérer ta créativité pour croiser les mots, la musique, les arts, comme tu le fais aujourd'hui? Quel a été le déclic?
Le déclic, c'est un livre de poèmes, le premier livre de poèmes que j'ai édité, qui s'appelle Plage, des petits animaux comme ça qu'on voit au bord de la mer. Et en même temps, j'avais envie d'écrire de la musique sur ces textes. Et donc j'ai écrit de la musique, et le livre est paru, j'ai écrit de la musique ensuite, et je me suis dit, mais tiens, pourquoi je ne ferais pas les deux ensemble? Et donc, j'ai accepté en moi, si tu veux, le fait d'aimer autant les sons que les mots. Voilà, après tout, on a le droit d'aimer deux choses. Avant, c'est vrai que je m'interdisais, je me disais, mais il faut que tu choisisses, est-ce que tu veux être compositeur ou est-ce que tu veux être écrivain? Et finalement, pendant un bon moment, j'ai été aucun des deux. Parce que j'étais écartelé entre ces deux choses-là. J'écrivais d'un côté de la musique, de côté de la parole, et puis après, c'est aussi la lecture aussi que je faisais moi de mes textes, qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, comme j'étais musicien, je portais beaucoup attention à la façon de porter la parole, de lire les textes, les oraliser, en fait, les oraliser. Et donc le musicaliser juste par la voix. Et donc peu à peu, là, j'ai commencé à écrire aussi pour des musiciens avec qui utilisaient des mots. J'ai demandé d'utiliser exactement des mots, exactement comment ils utilisent de la parole, comme on parle dans la vie. Ouais, et voilà, ça s'est fait petit à petit. Je me suis accepté, quoi. Voilà, dans ma dualité, je me suis accepté. J'ai dit, bon, il y a deux personnes qui ont envie de faire deux choses différentes. Allez, bosse ensemble. C'est la vie.
En somme, tu t'es autorisé à sortir du cadre, si je comprends bien. Et ce qui est
Oui,
assez.
c'est voilà, c'est très juste. C'est de l'autorisation, exactement.
Alors, ce
Ouais.
qui est drôle, c'est que. Enfin, drôle,
Et puis à
on va dire que
l'époque,
c'est ce mot-là.
excuse-moi, mais en plus, à l'époque, en plus, c'était mal vu si tu veux faire deux choses comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus dans le mood général, quoi. Voilà. Il y a plein, tu vois, dans d'autres domaines que la musique contemporaine ou la poésie, dans les domaines beaucoup plus grand public, si on peut dire, quoi. Il y a plein de gens, en fait, qui font des choses différentes. On ne s'offusque pas que X soit à la fois scénariste de films, qui dise des textes, qui écrit des bouquins, qui fait des émissions radio, qui réalise un film. Oui, c'est passé dans le domaine courant depuis longtemps, ça. Mais à l'époque, c'est vrai, c'était. Chacun était dans son couloir Ce n'est pas accepté facilement. Quoi. Voilà.
C'est vrai que ça s'est un petit peu détendu et c'est pas plus mal. Ouais. Et, ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as étudié la musique au Conservatoire de Paris, tu as enseigné ensuite l'écriture et l'analyse musicale à la Sorbonne pendant 10 ans. Ce sont des cadres très stricts pour quelqu'un qui sort du cadre en permanence. Mais je me demandais, pour sortir du cadre, faut-il d'abord apprendre à y entrer ?
Ah bah, ça dépend des gens. Hein. En tout cas, pour moi, ça s'est fait comme ça. Oui. J'avais une telle passion pour la musique, je me fartissais de sons et de musique de compositeurs que j'adorais. Et voilà. Et en même temps, d'un autre côté, je me fartissais de livres d'auteurs que j'adorais, d'écrivains. Et donc, il y a un moment où on s'autorise, effectivement. Mais je pense que, enfin, moi je peux parler pour moi, hein, mais j'ai étudié vraiment la musique profondément. Et j'ai suivi un cursus très classique, même si j'ai suivi en même temps un cursus de musique non classique, c'est-à-dire que je me suis intéressé beaucoup aux musiques extra-européennes, notamment j'ai appris le zarb, qui est un instrument de percussion iranien, donc j'en ai joué beaucoup, j'ai étudié beaucoup la musique orientale au moment où la connaissance de ça arrivait pas mal à Paris, avec des musicologues comme Tran Van Ke, donc je suivais ses cours, etc. Donc ça, c'était, ça me permettait déjà d'ouvrir le focus musique. Oui, voilà. Et sur le versant poétique, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'école. On se forge sur le tard en écrivant des textes, en lisant d'autres poètes. Et il y a un déclic qui s'est fait aussi, comme j'ai beaucoup étudié... j'ai un peu étudié la Renaissance et le Moyen-Âge, et voilà, je suis tombé sur des auteurs comme Adam de la Halle, Guillaume de Machaut un peu plus tard, voilà, donc 12e, 13e, 14e siècle, des poètes, les troubadours, au fond, étaient à la fois des poètes et des musiciens, donc il y a une époque comme ça, où musique et poésie pouvaient se pratiquer en fusion, d'un même côté. J'ai mis en scène pour la Comédie française la première pièce d'Alain de la Halle, qui était à la fois compositeur et poète. Donc, après tout, je me suis dit, tiens, il y en a d'autres qui ont fait ça, allez, je m'autorise. Et puis, quand tu regardes d'autres traditions, les traditions orales, en Afghanistan, en Afrique, les griots, tu vois que poésie et musique, il y a une époque où il y avait encore des domaines, des régions où ça se pratique dans un même mouvement. Voilà. Donc ça m'a autorisé, ça m'a aidé.
Alors, une chose que tu t'autorises aussi énormément, c'est l'humour, c'est le pied de nez. Parce que voilà, on écoutait tout à l'heure 12 essais d'insolitude extraits de ton livre. Ce texte-là ne suffit pas à résumer le bouquin, bien entendu. Ça part un petit peu dans tous les sens. C'est très, très diversifié. Et dans tes spectacles, comme dans ton livre, l'humour est présent. Enfin, je pense par exemple, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé le Cabaret de la Dernière Chance, un spectacle que tu as créé. Et donc, dans cet extrait qui dure quelques minutes, tu t'autorises un sabotage en règle de l'été indien de Joe Dassin. Je ne sais pas ce qui t'a fait, Joe, le pauvre. tu as un autre spectacle, La Fabrique des Pensées Toutes Défaites. C'est délirant.
Ça s'appelle L'été pas bien.
Oui, ça.
Dans ma version à moi, l'été pas bien.
Vu les paroles, j'ai remarqué. J'invite nos auditeurs et auditrices à chercher le Cabaret de la Dernière Chance. Vous comprendrez de quoi on parle. Et aussi dans le dos de la langue. Revenons-y à ce livre. Tu as des textes désopilants et alors un truc qui m'a vraiment frappé, c'est ta correspondance avec l'entreprise Coca-Cola. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis demandé ce que ça faisait dans le livre au départ, et puis après j'ai compris qu'il y a des textes avant et après qui s'y rapportent. Mais voilà, tu as très sérieusement un jour écrit à Coca-Cola pour leur proposer un slogan publicitaire en leur disant le plus sérieusement du monde qu'ils pourraient, à partir de ce slogan, faire un spot publicitaire avec Frank Sinatra et Pamela Anderson chevauchant des motos ou des chevaux ou des hamsters. Et enfin, c'est complètement délirant, c'est une grosse blague de toute évidence. Mais là où c'est le plus drôle, c'est qu'ils t'ont répondu le plus sérieusement du monde en disant que, écoutez, c'est très gentil, mais vraiment, ça sort un petit peu de notre cadre. Revenons-y au cadre.
Ah oui, ils ont été gentils, oui. Ouais, j'avais écrit aussi une lettre à leur concurrent, Pepsi. Colin, qui eux ne m'ont pas répondu.
Ah, aucun humour que chez Pepsi, on
non,
le saura.
Pepsi, voilà, tiens, voilà. Donc, du coup, je ne vois plus jamais de Pepsi, Colin. Permet déjà de reprendre.
Ça leur apprendra, c'est bien fait.
Ouais.
Et du coup. Voilà, cette recherche du pied de nez, cet humour permanent qu'on retrouve un peu partout dans ton œuvre, j'ai envie de dire, voilà, tu es un garçon qui fait les choses très sérieusement, mais faut-il justement avoir de l'humour pour faire les choses sérieusement ?
Bah, l'humour permet de regarder les choses de travers, de côté plutôt, de côté, et donc de traverser. Voilà. Ça permet de prendre un peu de recul, la distance, voilà. Donc, c'est vrai que je prends de la distance avec les mots pour les regarder, par un autre bout, par le bout de leur histoire ou par le bout de leur sonorité qui me renvoie à d'autres mots. Enfin, c'est un peu la démarche de tout poète, hein, de regarder, d'utiliser les mots, de les regarder sur leur versant sonore. Autant que sur leur versant sémantique. On mélange les deux. Les mots sont utilisés un peu comme des objets, comme ça, qui ont plusieurs faces. Voilà. Donc, bon. Ceci dit, j'ai des textes hyper sérieux aussi. Hein.
Oui, si tu regardes, bien sûr.
Et il y en a aussi des textes qui ne sont pas faits pour du tout être mis en musique. Il n'y a pas que cet aspect où il y a un versant sonore pour le texte. J'ai aussi. J'écris des textes, c'est complètement ailleurs que dans l'humour ou que dans la musique. Et voilà, c'est des textes différents. La musique aussi d'ailleurs, il n'y a pas toujours des mots dedans. Voilà, donc j'aime bien, ça dépend du moment, quoi, on peut dire. Hein. L'espace sonore et sémantique m'intéresse, quoi. J'aime bien parcourir tout ça. Bon, je ne suis pas sûr de bien répondre à ta question.
Si, c'est bien. C'est... Ouais. En fait, quand je t'écoute, je me dis, mais en fait, ce gars-là, il aime bien se surprendre et surprendre. Voilà.
Oui, parce que c'est vrai que le désir est super important quand on écrit quelque chose. Quand moi, j'écris quelque chose, j'ai envie de l'écrire. Ce n'est pas parce que c'est une commande ou parce que... Voilà, je prends plein de notes toute la journée et quelquefois, ça... Ces notes aboutissent à un petit texte ou à une musique, ou voilà, ça prend une voix, comme des petits ruisseaux qui se forment et qui finissent par s'incarner dans un fleuve un peu plus grand ou une rivière un peu plus grande, simplement, soyons modestes. Et d'autres fois, ça reste comme ça, des petites gouttes, des notes que j'ai dans des carnets. Donc, je ne me mets pas à une table, si tu veux, en me disant, voilà, bon, aujourd'hui, j'écris là-dessus, je fais une symphonie, je fais un livre sur ceci ou cela, je suis incapable de ça. Donc je ramasse des petits cailloux, des petites choses comme ça, je les regarde, et hop, je les mets avec d'autres petits cailloux, et je fais des petits tas, et puis un jour je fais quelque chose avec les petits tas, ou pas. Et voilà, c'est uniquement sur le désir en fait que ça fonctionne. Et donc je me dis aussi que, après tout, s'il y a du désir de ma part, il y aura un écho de ce désir chez le lecteur ou chez le spectateur, et que ça marche comme ça, voilà. Je ne suis pas écrivain professionnel ou compositeur professionnel, je ne vois pas comme ça. Je suis compositeur ou écrivain par plaisir.
Eh bien, le plaisir était pour nous, Jacques. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir pris du temps.
Merci à toi.
Et donc, avant de te dire au revoir, je donne quelques petites infos à nos auditeurs et auditrices concernant justement ce spectacle, enfin cette lecture à deux voix, des feuilles et des feuilles. Sortez vos agendas, notez, chers auditeurs et auditrices, la date du mardi 21 mars 2023. Vous êtes attendus à 12h15 pour cette fameuse lecture de Jacques Robotier et Frédéric Brouillasse. Ça se passe à la maison de l'étudiant de Guyancourt, 1 allée de l'astronomie. Il va de soi que vous êtes les bienvenus, y compris si vous n'êtes pas étudiant, ça va de soi. Donc cette lecture est proposée dans le cadre du Printemps des Poètes 2023 par la mission Écriture contemporaine de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec le service culturel étudiant et personnel de l'Université Versailles-Saint-Quentin, plus connu sous l'acronyme UVSQ. L'entrée est gratuite, mais, je dis bien mais, le nombre de places est limité, alors il est quand même conseillé de réserver en envoyant un petit mail à cette adresse service.culturel@uvsq.fr. Et si par malchance vous écoutez ce podcast après le 21 mars 2023, oui, c'est trop tard pour la lecture, mais séance de rattrapage, il n'est pas trop tard pour découvrir l'œuvre de l'infatigable Jacques Robotier. sur sa chaîne YouTube par exemple, ou sur son site robotier.net, ou à travers ses livres, il en a publié une bonne quinzaine, et celui que nous avons évoqué durant cette émission est forcément dans une médiathèque près de chez vous. Il s'intitule « Le dos de la langue », je répète. Enfin, hâtez-vous de consulter le programme complet du Printemps des Poètes 2023 sur le site des médiathèques de Saint-Quentin, e-médiathèque.sqy.fr, mais aussi sur le site kiosque, kiosq.sqy.fr. Jacques, il est temps de nous quitter. Merci encore.
Ben merci, et puis venez, parce qu'il y aura des feuilles, et puis il y aura aussi des feuilles.
Eh bien, écoute, et j'espère qu'il y aura des spectateurs et des spectateurs. Je pense que j'en ferai partie aussi. Et moi, j'ai très envie de me faire surprendre parce que je sens que là, on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Donc, venez nombreux et nombreuses. Merci encore, Jacques. À bientôt.
Merci à tous. À bientôt.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à bientôt.